Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 18 octobre. Avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse. Au cours de cette heure, le journal, les sports, Europe Voice et la série Personnages comme chaque dimanche. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 18 octobre, le chef du Victoria, Daniel Andrews, assouplit certaines restrictions dans l'État dès minuit ce soir. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, gouvernera pour un second mandat après une victoire historique. Et en AFL, le footy australien, la grande finale aura lieu entre Richmond et Geelong. Le chef du Victoria a annoncé des changements importants concernant les restrictions de coronavirus dans l'État. Le Victoria a enregistré 2 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès au cours des dernières 24 heures. Daniel Andrews a déclaré que l'État est bien placé pour avoir un été sans le coronavirus.
From 11:59 p.m. tonight, the following changes to restrictions will be made. There will be no time limit on leaving your home for exercise or for socialising. The travel distance from your home will move from 5 kilometres to 25 kilometres. Outdoor gatherings will increase to 10 people from 2 households. The following settings will be open, subject to, of course, COVID-safe conditions. Tennis, skate parks, golf. Hairdressers will be back open.
La Nouvelle-Galles du Sud reste en état d'alerte alors qu'un cluster de COVID-19 dans le sud-ouest de Sydney, Oran Park, continue de croître et les autorités implorent que plus de personnes se fassent tester. On craint que le cluster ne se propage sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud après que des cas positifs se soient rendus dans le district. New South Wales Health a émis des alertes pour Gregory Hills Hotel sur Central Hills Drive dans la région de MacArthur, le 1500 United Cinema dans le centre-ville de Narellan et le supermarché Woolworths à Oran Park. Le docteur Stephen Corbett de New South Wales Health déclare que les personnes présentant des symptômes du COVID-19 doivent se faire tester immédiatement.
Everyone plays an important role in helping to contain the pandemic by getting tested quickly and following social distancing rules. Get tested on the day you get symptoms. Don't wait to see if they go away. Assume it's COVID-19 until proven otherwise by a test.
De nouveaux contrôles ont été introduits sur les passagers arrivant à Sydney dans le cadre de la bulle trans-tasmanienne qui permet aux Néo-Zélandais de se rendre en Nouvelle-Galles du Sud, dans l'ACT et dans le territoire du Nord, sans avoir à se mettre en quarantaine. Le premier jour, 55 passagers et non pas 17 passagers de la Nouvelle-Zélande ont pris un vol vers Melbourne, même si le Victoria affirme avoir clairement indiqué que l'État ne faisait pas partie de la bulle du voyage et ne voulait pas que cette situation se répète. Le ministre de l'Immigration, Alan Tudge, a déclaré qu'un représentant du gouvernement du Victoria était au courant des arrivées de Nouvelle-Zélande.
They were made aware that this was going to occur. They raised no objections in the meetings and furthermore expressly authorized individuals who were arriving into Sydney from New Zealand to be able to on travel into Victoria. Now, I would ask the Premier today to reveal those emails and any other correspondence which shows clearly and demonstrably that they authorised the people to come into Victoria.
La police du Victoria enquête sur les passagers venus de la Nouvelle-Zélande qui se trouvent dans le Victoria. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et le Parti travailliste ont remporté une large victoire aux élections d'hier. Madame Ardern a déclaré que la Nouvelle-Zélande avait donné au Parti travailliste son plus grand soutien depuis au moins 50 ans. Dans son discours de victoire, la première ministre a déclaré qu'elle gouvernerait pour chaque néo-zélandais.
Cette élection n'était pas ordinaire, tout comme l'époque dans laquelle nous vivons. Nous avons été confrontés à beaucoup d'incertitudes et d'anxiété et nous avons été un antidote à tout cela aujourd'hui. Ce soir, nous avons obtenu un excellent résultat et il est clair que le Parti travailliste dirigera le gouvernement les trois prochaines années. Et durant ces trois prochaines années, nous avons beaucoup de travail à accomplir. Nous nous remettrons de la crise du Covid-19. Nous bâtirons une économie qui profitera à tous. Nous continuerons à créer des emplois décents, à former les gens, à protéger notre environnement face aux défis du changement climatique. Nous continuerons de combattre la pauvreté et l'inégalité, de transformer toutes ces incertitudes et ces moments difficiles en espoir et optimisme. C'est une opportunité que nous avons déjà saisie. Nous savons que ces trois prochaines années ne seront pas faciles, tout comme les années passées, mais un rayon de lumière a pu apparaître, même en ces temps les plus sombres. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de continuer, de travailler et de saisir toutes les opportunités. Avançons pour cela, tous ensemble, dans cette direction. Let's keep moving.
Et en Australie, il y avait une élection dans l'ACT hier. Les travaillistes ont remporté une autre victoire électorale avec le Chief Minister Andrew Barr, réélu pour un autre mandat. Le Labour est au pouvoir depuis 19 ans et formera un gouvernement avec les Verts. Andrew Barr se dit fier du choix que les électeurs ont fait.
2020 has thrown so much at us. It has pushed our city to the limits. It's tested everything that we thought possible. And in this most challenging of years, Canberrans have turned to a strong and experienced government. We said we would protect your health and we will protect your jobs. And that's exactly what we will do during this pandemic.
En France, 9 personnes arrêtées au lendemain de la décapitation dans les Yvelines d'un enseignant d'histoire-géographie qui avait montré des caricatures de Mohamed à ses élèves. Samuel Paty, âgé de 47 ans, était prof d'histoire-géographie et en charge de l'enseignement moral et civique. Marine de la Moissonnière pour RFI.
Parmi les personnes en garde à vue, il y a les parents du terroriste, son grand-père et son petit frère, interpellés à Évreux, où il vivait lui aussi. D'autres de ses proches ont également été arrêtés, ainsi que le père d'une des élèves de la victime, se disant insulté parce que le professeur avait montré à sa classe de 4e 2 caricatures de Mahomet. Dans le cadre d'un cours d'éducation civique, le père de famille avait porté plainte contre l'enseignant la semaine dernière. Il était allé rencontrer la principale du collège pour obtenir son renvoi. Il s'était fait accompagner à ce rendez-vous par une figure de l'islamisme radical, Abdelhakim Sefrioui. Les deux hommes ont aussi posté des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles ils s'en prenaient au professeur. Le terroriste, lui, était connu des policiers pour de petits délits, pas pour radicalisation. Il n'avait pas de casier judiciaire. Le jeune homme a effectué des repérages près du collège vendredi après-midi et a même demandé à des élèves de lui désigner Samuel Paty. Il avait également rédigé à l'avance le message de revendication qui a accompagnait la photo de la tête de sa victime qu'il a postée sur Twitter via son téléphone portable juste après l'attaque. Un texte dans lequel il mentionne Mahomet.
Une marche blanche a eu lieu hier à Paris. Un hommage national sera rendu mercredi prochain au professeur Samuel Paty. Valérie Cohen, RFI.
Il nous enseignait la liberté et c'était bien.
C'était un prof super gentil, très blagueur. Il respirait la joie de vivre et ce qui s'est passé c'est ignoble et je pense qu'il faut se soutenir et lui rendre hommage.
Comme Malika et Noam, élèves du professeur assassiné, ils sont des dizaines d'adolescents, mais aussi de parents d'élèves et d'habitants, à partager tristesse et colère. Akila, voilée de gris, qui confie avoir été dérangée par les caricatures de Mahomet, est venue déposer des fleurs devant le collège.
Ça nous a touché l'image, mais ça n'arrive pas à ça. L'islam ne fait jamais ça. Moi je suis musulmane. Ce qui est arrivé, ce n'est pas quelque chose de normal. C'est horrible.
Inacceptable aussi pour Lionel, père d'élève et professeur d'histoire-géographie dans un établissement voisin.
C'est un choc, de la douleur, beaucoup de colère aussi, énormément de colère. Alors j'arrive pas à savoir contre qui je l'ai en moi, il va falloir que j'apprenne à la canaliser. Mon fils, hier soir, presque en larmes, me disait « Papa, tu feras attention à ce que tu diras en classe ». Et ça c'est...
Ça, c'est le plus dur.
Et parce qu'immanquablement, il y a l'autocensure. Et ça, j'en ai peur, je ne veux pas avoir enseigné comme ça. Je veux défendre ce en quoi je crois et je ne veux pas me faire écraser et accepter de devoir renoncer à certains principes que je trouve fondamentaux.
Et de désigner du regard la devise de la République inscrite sur le fronton du collège « Liberté, égalité, fraternité ».
En France, toujours entrée en vigueur du couvre-feu pour 20 millions de Français en Île-de-France et dans 8 autres métropoles depuis 21h hier soir pour lutter contre la courbe du Covid-19. Précision de Pierre Olivier pour RFI.
20h30, les terrasses se vident déjà et chacun pense aux réjouissances de la soirée.
On va rentrer, on va se faire manger à la maison et on va passer la soirée à la maison.
On était en train de parler des séries qu'on allait voir pendant un mois là, tout à l'heure. Vraiment, c'est le planning dont on rêve. C'est génial.
Le ton est ironique, presque résigné. Il y a aussi celles et ceux qui ont anticipé ce couvre-feu.
En fait, on avait réservé un restaurant depuis quelques temps parce qu'on a une amie de Marseille qui est venue. On a dû annuler évidemment. Et finalement, on va faire une soirée pyjama entre copines, quoi.
Des soirées dortoirs en appartement pour contourner le couvre-feu, mais qui ne font pas les affaires de ce directeur de restaurant.
Le soir représente plus de 2/3 de notre chiffre d'affaires. Puis là, pour les semaines à venir, voilà, fermé à 21h, ça va être très compliqué. On va peut-être pouvoir faire un petit peu d'apéro.
21h, justement, un peu partout, les restaurants baissent leurs rideaux. Voilà, il est 21h35, vous l'entendez, la rue autour de moi est très calme, il n'y a pas un chat dans cette rue habituellement très fréquentée, toutes les terrasses, des bars et des restaurants sont closes.
J'ai l'impression qu'il est 2h du matin, quoi. Hormis les moyens de transport, je pense VTC, deux roues qui sont dans la rue, les gens qui foncent dans les métros, et les derniers bus qui sont remplis, c'est comme si c'était 2h du matin. Hein.
Un nouveau mode de vie auquel il faudra s'habituer pendant au moins un mois.
Aux États-Unis, des milliers de femmes ont manifesté à New York hier contre la nomination hâtive de la juge conservatrice Amy Barrett à la Cour suprême. Reportage Lubna Anaki pour RFI.
Sur sa pancarte, Ava Arling a inscrit les derniers souhaits de Ruth Bader Ginsburg qui demandait à ne pas être remplacée avant la présidentielle.
Elle a été très claire et je pense qu'il lui manque de respect à elle et à ses dernières volontés.
Comme cette jeune étudiante, ils étaient quelques centaines ce matin dans les rues de New York, venus protester contre la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême.
Je sais qu'elle assure vouloir garder l'esprit ouvert, mais son passé sur l'avortement ou l'Obamacare fait peur.
On a des gens au pouvoir qui prennent des décisions qui vont à l'encontre de nos droits individuels en tant qu'êtres humains, surtout en tant que femmes.
À moins de 3 semaines des élections, les manifestants appellent à voter en masse contre l'administration actuelle.
Les gens doivent prendre tout ça au sérieux. Il faut voter et mettre ce gars à la porte. C'est très sérieux.
Mon bulletin arrive, je vais signer. Tous mes amis votent, j'ai 18 ans, tellement de gens votent, je suis optimiste.
Comme à New York, des milliers de personnes marchent aujourd'hui à travers le pays contre la politique de Donald Trump et la nomination d'Amy Coney Barrett. Ils promettent de multiplier les manifestations au cours des 2 prochaines semaines.
En Afrique maintenant, en Guinée, Alpha Condé se présente à l'élection présidentielle de ce dimanche pour briguer un 3e mandat. Reportage de Binta Diane pour RFI.
Dans une salle de l'université, un formateur rappelle comment comptabiliser les bulletins nuls et comment remplir un procès-verbal. Cela ressemble à un cours de mathématiques et les stagiaires semblent se prendre au jeu. Parmi eux, Maury Diabaté, formé pour être assesseur d'un bureau de vote. Ce jeune en a bien conscience, la tâche ne sera pas facile.
Je crois que cette élection-là, c'est pas du tout facile. Parce que vu la tension, vu la situation, il faut que la chenille serre la ceinture. Pour que l'élection, ça soit une élection apaisée.
Mohamed Mara est superviseur. Il compte bien être vigilant en cas d'erreur ou de tentative de corruption d'un membre du bureau de vote.
Nous avons appris comment sécuriser le vote, comment remplir les PV et comment centraliser les résultats que notre parti va obtenir après le vote. Sécuriser, ça veut dire empêcher les fraudes et faire tout encore pour ne pas que les résultats que nous allons obtenir, qu'ils falsifient, parce que souvent il y a certains membres qui viennent, ils corrompent souvent nos délégués en leur proposant de l'argent.
Dans un communiqué, les autorités sont formelles, seule la commission électorale est habilitée à prononcer les résultats, une manière de faire baisser les tensions entre partis politiques autour de l'attente des résultats.
L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont annoncé une trêve humanitaire depuis minuit hier. C'est le deuxième cessez-le-feu après 3 semaines de combats qui ont fait des centaines de morts au Karabakh. Précision de Régis Janté pour RFI.
Ganja a à nouveau été frappé durement dans la nuit de vendredi à samedi. 13 civils auraient été retrouvés morts dans les décombres d'une vingtaine de maisons dans 2 quartiers différents de la grande ville du nord de l'Azerbaïdjan, située à une 50aine de kilomètres de la ligne de front et disposant d'un très important aéroport militaire. Selon Bakou, les tirs proviennent d'un système de lancement de missiles balistiques installé sur le territoire de l'Arménie, pas sur celui de la République de facto indépendante du Haut-Karabakh. L'armée de défense de cette dernière a de son côté publié une liste de 7, je cite, cibles militaires légitimes situées dans la ville de Ganja. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a promis que son armée se vengerait contre l'Arménie et sur le terrain de bataille, alors qu'il annonce depuis plusieurs jours la reprise de nombreux villages sur les flancs sud et nord des 200 km de la ligne de contact du Karabakh et que les villes de Stepanakert et Chouchi ont aussi été frappées vendredi soir. Jamais les combats n'ont été plus violents que ces derniers jours. Les vidéos publiées par les belligérants montrent que le bilan des soldats tués au combat augmente fortement chaque jour.
On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 31 degrés. Adélaïde, 19. Melbourne, 15. Hobart, 17. Canberra, 21. Sydney, 23. Brisbane, 30. Cairns, 31. Darwin, 32. Et à Alice Springs, il fera 33 degrés. Un rappel des grands titres de ce 18 octobre, le chef du Victoria, Daniel Andrews, assouplit certaines restrictions dans l'état des minuit ce soir. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, gouvernera pour un second mandat après une victoire historique. Et en AFL, le footy australien, la grande finale aura lieu entre Richmond et Geelong.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports de ce dimanche et on débute avec le foot en France, la Ligue 1, avec Marseille qui a battu Bordeaux 3-1. Hier, on écoute Michael Cuisance qui faisait sa première apparition pour l'OM.
C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé pendant cette trêve pour préparer ce premier match qui nous tenait vraiment à cœur. Et c'est vrai que je suis heureux, j'ai retrouvé le sourire parce qu'ici je me sens bien et je suis comblé. La concurrence est saine et on veut tous se pousser vers le haut pour faire quelque chose de beau cette saison. Il faut continuer comme ça, c'est que le début et après on a encore quelques points à peaufiner pour le match de Champions League, mais on est sur la bonne voie.
Et puis victoire de Lorient contre Reims, 3-1. L'attaquant sénégalais Ibrahim Diagne du FC Metz est actuellement le meilleur buteur du championnat, mais il a été blessé et pourrait ne pas jouer pour 6 mois. Explication de Cédric De Oliveira pour RFI.
Le choc est brutal et cruel pour l'une des plus belles promesses de la Ligue 1. Le genou d'Ibrahim Diagne a lâché lors d'un entraînement anodin avec le FC Metz. Verdict, rupture des ligaments croisés et une absence qui devrait au moins durer 6 mois. À 21 ans, c'est bien évidemment un coup d'arrêt pour le jeune Sénégalais qui traversait une période particulièrement prolifique. 6 buts en 6 matchs cette saison, ce qui faisait de l'ancien attaquant de Génération Foot le meilleur buteur de la Ligue 1. Sans sa blessure, ni Kylian aurait pu être appelé par le sélectionneur des Lions de la Teranga Aliou Cissé pour disputer les éliminatoires de la CAN en novembre. Mais il va lui falloir beaucoup de patience avant de recommencer à jouer. Pour Metz, c'est aussi un coup dur, d'autant que le club lorrain a transféré Habib Diallo à Strasbourg dans les ultimes heures du mercato. Frédéric Antonetti, tout juste revenu sur le banc messin, pourrait bien donner sa chance à un autre ancien pensionnaire du club de Madi Touré. Papy a des 5 apparitions en Ligue 1 cette saison et peut-être successeur de Nian.
En Angleterre, il y avait 4 matchs de Premier League hier, samedi, avec le match nul entre Everton et Liverpool, 2 buts partout. Match nul également entre Chelsea et Southampton, 3 buts partout. Victoire de Manchester City contre Arsenal, 1-0. Et victoire de Manchester United contre Newcastle, 4-1. Et le Paris Saint-Germain jouera contre Manchester United en Ligue des Champions. Ce sera mardi prochain. Écoutez Thomas Tuchel, le sélectionneur de Paris.
Si on a seulement 11, 12, 13 joueurs qui sont capables de commencer, c'est aussi plus facile de choisir. Et après, on va pousser l'équipe parce qu'une victoire, c'est la meilleure chose de préparer Manchester. Mais c'est un grand défi parce que ça ne va pas arrêter cette année-là. Comme une équipe très forte, on peut attendre beaucoup de nous et c'est toujours nous qui attendons les meilleures choses de nous. Mais chaque blessure, ça coûte beaucoup et on ne va pas trouver de face pour récupérer. Quand je regarde le calendrier, c'est énorme. Et voilà, j'espère qu'on reste avec une bonne santé pour être compétitif.
En Espagne, le FC Barcelone a été battu par Getafe 1-0. Défaite aussi pour le Real de Madrid par Cadiz 1-0. En Allemagne, Leipzig, premier au classement, a gagné contre Augsbourg 2-0. Le Bayern de Munich a battu Arminia Bielefeld 4-1. En Italie, l'Atalante Bergame battu par Naples 4-1. Et l'AC Milan, deuxième, a battu l'Inter Milan 2-1. On passe au rugby, la finale de la Coupe d'Europe avec le Racing 92 battu par Exeter. Cédric de Oliveira et Olivier Pron pour Radio France Internationale.
Ça fait 3 défaites en 5 ans et pour le Racing, et celle-là elle risque de faire très mal, 31-27 dans un match de haute volée à Bristol, mais que le club français a vraiment pris par le mauvais bout. Début de match cataclysmique, des fautes de main, des pénalités, des cadeaux à l'adversaire. Franchement, il ne pouvait pas moins bien commencer. Il y avait d'ailleurs 14-0 pour Exeter après un quart d'heure de jeu. Exeter qui disputait, on le rappelle, sa première finale de Coupe d'Europe, mais il faut le signaler, le Racing a eu une très grosse capacité de réaction puisqu'il a été capable d'inscrire 2 superbes essais de Simon Zebo et de Juan Imhoff, 14-12 puis 21-12 à la pause après un nouvel essai d'Exeter.
Le Racing qui a passé son temps à courir en fait après le score.
Et à chaque fois que les franciliens se rapprochaient, Exeter punissait les trop nombreuses approximations. La charnière formée de Teddy Iribarren et de Finn Russell a commis trop d'erreurs et c'est ce qui cause cette défaite du Racing évidemment. Énorme désillusion pour le capitaine Henri Chavancy.
Il y a beaucoup de déceptions forcément, il y a de la tristesse, vraiment beaucoup de tristesse. On avait vraiment à cœur d'enfin gagner ce trophée. C'est vrai qu'on a fait une entame très brouillonne, on a donné des points faciles à cette équipe d'Exeter et on a couru après le score tout le match. Malgré tout, on a réussi à revenir, à recoller. On a une opportunité dans les dernières minutes de passer devant. On vient échouer sur la ligne, je crois que c'est vraiment à l'image du match. Ça ne s'est joué à rien, mais c'est très dur, mais c'est comme ça.
À propos recueilli par France Télévisions, un mot Olivier, tout de même sur Exeter, les Chiefs sacrés pour leur première participation en finale de la Coupe d'Europe. Les partenaires d'Henry Slade qui ont gravi les échelons jusqu'au sommet du rugby européen, ils étaient encore en deuxième division anglaise il y a 11 ans.
Un mot de tennis avec le tournoi, la finale de Saint-Pétersbourg ce dimanche entre le Russe Rublev et le Croate Koric. Et puis en Cologne, ce sera une finale entre l'Allemand Zverev et le Canadien. Félix Auger-Aliassime. Un mot du Giro d'Italia avec l'étape de samedi qui a été remportée par l'Italien Filippo Ganna. Un mot du footy, la grande finale de la FL sera disputée entre Richmond et Geelong samedi prochain après que Port Adelaide fut éliminé par Richmond au Adelaide Oval et hier Brisbane éliminé par Geelong au Gabba au Queensland. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. 13h29 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et dans quelques instants, je passe l'antenne à mon collègue Christophe Mallet pour Europe Voice en compagnie de Nathanaël Bloch et se focus sur la Nouvelle-Calédonie.
Europa Voice numéro 69 et j'ai comme à chaque épisode d'Europa Voice le plaisir d'avoir Nathanaël Bloch avec nous. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors 69, on va parler donc une fois n'est pas coutume de Nouvelle-Calédonie puisque en fait il y a eu un référendum, deuxième référendum d'autodétermination pour l'île qui est à côté hein, de l'Australie. Mais c'est important parce que expliquez-nous au niveau du vote, l'importance de ce vote, de ce deuxième vote, vote probablement pivot. En tout cas, c'est ce qui laisse à penser pivot dans l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie.
Alors effectivement, Christophe, il y a eu un second référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Alors la question qui était posée aux électeurs inscrits sur les listes électorales, c'était: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante. Donc c'est assez clair. Alors il faut aussi petit élément de précision que simplement les électeurs inscrits qui répondent à certains critères de résidence stricte, notamment pour les non-Kanaks, c'est-à-dire qu'il fallait habiter sur le territoire depuis un certain nombre d'années, pouvaient participer à ce référendum. Et les résultats de ce référendum, Christophe, c'était un non pour une pleine souveraineté et une indépendance à 53,3% et oui à 46,7% dans ce référendum.
Et c'est important parce que, comme je disais, c'est le second référendum, mais au premier, le non l'avait emporté avec 56%. Donc du coup, les indépendantistes sont un peu sur la pente ascendante dans l'opinion, en tout cas l'opinion exprimée via les bulletins de vote.
Alors il y a deux, Christophe, il y a deux enseignements majeurs de ce référendum. Le premier d'abord, c'est que on a une participation qui progresse. Dans ce deuxième référendum hein, par rapport au premier référendum, on a plus 4,62 points par rapport au scrutin du 4 novembre 2018. Donc ça veut dire que finalement on a un électorat qui a conscience des enjeux de ce référendum d'autodétermination, et c'est on peut le dire, c'est ce que le président Macron avait dit, c'est une réussite démocratique. Ça c'est le premier enseignement, Christophe. Mais le deuxième enseignement qui nous intéresse même davantage ici, et c'est là où c'est intéressant, c'est que on a en fait un écart qui se resserre entre les deux camps. Parce que deux ans plus tôt, en 2018, les partisans à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie avaient recueilli seulement 43,3% contre 56,7%. Alors que là, ils sont à 46,7%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est finalement presque une victoire en trompe-l'œil pour les indépendantistes. Et d'ailleurs on a vu des scènes de liesse extraordinaires en Nouvelle-Calédonie hein, de ces indépendantistes, parce que on le sait, il y a un troisième référendum qui est prévu hein, par les accords de Nouméa, et donc les indépendantistes, ce qu'ils voient eux, c'est pas le résultat en valeur absolue de ce deuxième référendum, mais c'est la progression, c'est le mouvement entre le premier référendum et le deuxième référendum, et ce évidemment qu'ils espèrent, c'est que cette progression continue et qu'ils accèdent à l'autodétermination et à l'indépendance dans le troisième et dernier référendum qui est prévu.
Alors c'est vrai que la progression était de 3 points, et c'est vrai que si ça continue sur le même volume de progression, les 3 points, on sera à 50-50, donc ça risque d'être vraiment très 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 serré si ça continue dans ce sens-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, au niveau gouvernement français et au niveau anti-indépendantiste aussi, également, on essaye, et on assez positivement d'ailleurs, mais on essaye de mettre la Nouvelle-Calédonie vraiment sur cet axe Indo-Pacifique. Et on rappelle l'importance d'une île comme la Nouvelle-Calédonie dans l'arsenal indo-pacifique de cet axe tant prôné par Emmanuel Macron et par son gouvernement.
Alors il y a deux aspects, Christophe, à cette question. D'abord, et c'est finalement une position assez macronienne du nini ou du en même temps, c'est que à la fois le gouvernement français prend acte hein, de ces résultats hein, et le président Macron ou son ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu ne constate hein, que l'évolution et l'augmentation du vote indépendantiste. Voilà, c'est quelque chose qu'ils ont constaté, c'est quelque chose qu'ils doivent anticiper en vue d'un troisième référendum. Ça c'est évident, mais en même temps, et c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, quelle que soit, j'allais dire, la réponse à ce troisième référendum, c'est l'après-référendum déjà qu'on va préparer. Si je fais une analogie, Christophe, avec un sujet dont on va parler dans quelques minutes et qui nous tient à cœur, c'est comme le Brexit. Si vous voulez, à ce moment-là, on ne prépare plus simplement le Brexit. Ce qui va être intéressant, ce qui va être crucial et primordial, c'est l'après-Brexit. Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, il faut déjà que le gouvernement français se place dans l'après troisième référendum, quel que soit, et c'est ce que le président Macron d'ailleurs a dit, hein, quelles que soient les options. Et une des manières, Christophe, et c'est là où c'est assez intéressant, une des manières de se placer déjà dans l'après troisième référendum, c'est d'éloigner un petit peu la focale et de considérer effectivement, comme vous l'avez mentionné, que la Nouvelle-Calédonie, elle s'inscrit dans une politique géostratégique française qui est plus grande, qui est plus globale, qui est l'axe Indo-Pacifique, qui est la zone Indo-Pacifique, qui est une priorité, Christophe, pour la France. Alors, l'axe Indo-Pacifique, qu'est-ce que c'est ? C'est un axe qui va de Paris à Canberra, en passant par New Delhi, et donc qui est inscrit aussi après Canberra, la Nouvelle-Calédonie. Alors, pourquoi c'est important, Christophe, pour la France ? C'est important parce que, en fait, si on résume, on a un espace géopolitique, notamment pour la France, qui est en train de se déplacer de l'Atlantique au Pacifique. Et si je vous donne juste deux chiffres, on a 93% de la zone économique exclusive. Donc vous savez, hein, c'est ces zones au-delà de vos territoires, ces zones maritimes dans lesquelles vous pouvez développer vos activités économiques. On a 93% de cette zone pour la France qui est située dans les océans Indien et Pacifique. Parce qu'on a une présence insulaire extrêmement importante dans ces zones-là. Ça, c'est un premier chiffre. Et puis, on a plus de 1,5 million de résidents français et 8 000 militaires qui sont aussi en mission dans cette zone Indo-Pacifique. Donc, pour la France, c'est extrêmement important. Et inscrire la Nouvelle-Calédonie dedans, c'est un enjeu crucial pour le président Macron.
Oui, et surtout, faut rappeler que ça a un enjeu également européen, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres puissances, entre guillemets, européennes, qui soient autant présentes dans le Pacifique et autant présentes, prêtes à répondre, justement, dans cette bataille américano-chinoise. Donc c'est pour ça que l'influence à la fois de la France et le positionnement de la Nouvelle-Calédonie aux yeux du gouvernement français est ultra importante.
Alors, oui, Christophe, en fait, il faut là aussi élargir un petit peu plus le spectre et la focale. Hein. Nous, en tant que Français, on parle évidemment de la Nouvelle-Calédonie, mais ce sont tous ces États insulaires de cette zone pacifique qui connaissent un regain d'intérêt depuis le début des années 90, et notamment de la part des puissances asiatiques. Hein. Et c'est là où il faut faire la comparaison, hein. C'est que dans le jeu international, même si le jeu pour la France il est multipolaire parce que vous vous opposez à d'autres pôles ou à d'autres espaces géopolitiques important. Et si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que ces États du Pacifique, depuis les années 90, ont vu un regain d'intérêt, et notamment de la Chine. Alors, pour une simple et bonne raison, c'est que la Chine, en déployant ses forces de frappe dans ces zones du Pacifique, elle peut accéder à des ressources de manière plus facile. Je pense notamment aux ressources aquatiques, halieutiques et minières. Et surtout, elle trouve dans ces zones-là des appuis diplomatiques extrêmement importants pour déployer son influence internationale. Et ce qui est intéressant, Christophe, dans la vision de cet axe, de cette zone Indo-Pacifique pour la France, c'est qu'il y a deux aspects qui est très clair. Hein, c'est une note du Quai d'Orsay, c'est des informations que vous pouvez trouver sur le site du Quai d'Orsay. C'est que d'un côté, pour la France, c'est renforcer les partenariats avec la Chine et introduire plus de ce qu'on appelle de réciprocité dans le cadre du dialogue politique, hein, donc ça veut dire ça va être la réciprocité sur les taxes sur les taxes carbone, ça va être la réciprocité sur les échanges économiques, hein, c'est de faire jeu égal en fait avec la Chine. Et puis le deuxième volet de cet axe Indo-Pacifique, qui est peut-être un peu moins offensif, c'est de créer finalement avec certains pays de la zone, alors on pense à l'Australie, on pense à l'Inde, on pense au Japon, à la Corée du Sud, des partenariats stratégiques parce qu'on partage une communauté de valeurs et d'intérêts. Tout ça, c'est dans une note du Killer C. Et c'est intéressant, Christophe, parce qu'on voit bien qu'il y a deux aspects dans cette zone Indo-Pacifique. Il y a un petit peu contrecarré l'influence de la Chine. Et puis, de l'autre côté, il y a développé avec des pays avec qui on partage des valeurs et des intérêts, des coopérations encore plus renforcées. Et donc, c'est extrêmement important. Et juste pour vous montrer, hein, le président de la République française, Emmanuel Macron, dans son dernier discours du 14 juillet, a déclaré, je le cite, « Nos grands enjeux, c'est aussi l'axe Indo-Pacifique, défini il y a bientôt 3 ans, où nous sommes présents, où nos concitoyens vivent, où nos armées sont déployées et où les impératifs stratégiques, la liberté de cette souveraineté dans l'océan Pacifique et Indien, sont une clé du jeu contemporain des grandes puissances. » Coucou la Chine.
Ouais. Et aussi, il y a la nomination de l'ambassadeur en France. L'ambassadeur français en Australie, Christophe Ponneau, a été nommé à un nouveau rôle, justement, pour avoir un regard complet sur les évolutions de cet axe.
Oui, voilà, effectivement, c'est une nomination qui est d'abord mérité hein, pour Christophe Penaud, parce que c'est l'ambassadeur encore pour quelques jours en français en Australie. C'est un grand connaisseur de la région à la fois du sud-est asiatique et évidemment de l'Australie, où il est encore ambassadeur pour quelques jours. Mais c'est en plus une nomination symbolique, puisque ça va être le premier ambassadeur dédié à cet axe Indo-Pacifique. Et d'ailleurs, c'est là aussi où c'est intéressant, et on voit que c'est quelque chose de stratégique, c'est qu'il va pas être, j'allais dire, basé et avoir une position tournante dans la région. Il va être basé à Paris, et depuis Paris, évidemment, il va beaucoup voyager, mais il va pouvoir déployer toute la stratégie autour de cet axe Indo-Pacifique. Donc voilà, pour le rappeler, hein, pour partager avec nos auditeurs, parce que c'est quelque chose qui est nouveau, avec lequel ils sont pas forcément familiers. Pour la première fois, la France aura un ambassadeur pour cet axe, pour cette zone Indo-Pacifique, et c'est l'ambassadeur actuel français en Australie, Christophe Penaud, qui va avoir ce rôle dans les prochaines semaines.
Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Notre rubrique du dimanche consacrée à un événement ou personnage qui ont marqué l'actualité. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, focus sur Mafalda, l'héroïne de bande dessinée.
Oui, son visage à Mafalda est connu du monde entier, mais elle est orpheline, Mafalda, et pour cause, hein, c'est pour cela que nous en parlons. Aujourd'hui, son auteur, celui qui a créé le personnage, il a dessiné pendant des années, est mort début octobre, le 1er octobre. Kino, de son vrai nom Joaquín Salvador Lavado Terón. Kino est un dessinateur argentin. Il s'est éteint, il était âgé de 88 ans. Il s'est éteint là où il est né, à Mendoza, en Argentine, naissance en 1932. L'annonce de sa mort à Kino, elle a été reprise partout dans le monde, car la notoriété de Kino et de son personnage Mafalda dépassait largement le cadre de l'Argentine. Les comic strips, les histoires, les albums, les plaquettes dessinées mettant en scène cette petite fille. Mafalda, dessinée avec deux points noirs pour les yeux, une petite boule pour le nez, sa tignasse brune. Les histoires de Mafalda ont été traduites dans au moins 20 langues. Rien qu'en France, ces albums se sont vendus à plus de 2 millions d'exemplaires. Elle fait partie, Mafalda, de ces personnages de BD, à l'instar de Tintin, du petit Nicolas, dont la notoriété est devenue mondiale. Et pourtant, les histoires, nous allons le voir, de Mafalda, eh bien, elles remontent aux années 60. Hein, et elles ont été intimement liées à l'histoire de l'Argentine, le pays de Kino, le dessinateur.
Comment est né le personnage de Mafalda ?
Oui, Mafalda, cette petite fille curieuse, espiègle, ce ton interrogatif sur le monde, cette insouciance mêlée d'insolence, d'irrévérence, son sourire malicieux, sa bonne bouille à Mafalda. Au départ, c'est pour répondre à une demande publicitaire que Kino a créé le personnage en 1962 en Argentine. On lui avait demandé de dessiner des scènes de vie d'une famille de la classe moyenne de Buenos Aires, une campagne publicitaire qui était destinée à promouvoir des appareils électroménagers. Et bien finalement, le projet publicitaire n'est pas allé au bout, il sera abandonné. Mais c'est ainsi en tout cas qu'a germé sous le coup de crayon de Kino le personnage de Mafalda dans cette Argentine qui était dirigée dans les années 60 par les militaires. Hein. Le personnage de Mafalda, eh bien, il va d'abord paraître deux ans plus tard dans la revue Primera Plana qui publie une histoire par semaine. Le premier album, lui, il sort en 1966. Primera Plana était un hebdomadaire consacré à l'actualité argentine, mais pas seulement. Il y avait aussi une ouverture et beaucoup de pages qui étaient consacrées à l'actualité internationale. Et c'est là que Kino va donner toute sa mesure au personnage de Mafalda, cette petite fille très, très mûre pour son âge, qui s'interroge, nous le disions, sur le monde qui l'entoure, sur le monde des adultes, sur la société, avec toute une série d'autres personnages qui sont là dans son histoire. Et c'est un petit peu comme avec les Simpsons et cette caricature aux États-Unis de la famille américaine moyenne. C'est un petit peu la même chose avec Mafalda qui met à l'épreuve ses parents dans ce monde des années 60 dominé par la guerre froide. Et en Argentine, bien, c'est l'époque des coups d'État militaires. Et c'est ainsi que l'on voit Mafalda, par exemple, former son propre gouvernement en réaction à ce qui se passe en Argentine face à l'incurie des dirigeants qui sont en poste. Cristina Kirchner, qui a présidé l'Argentine de 2007 à 2015 et qui est encore aujourd'hui vice-présidente du pays, voilà ce qu'elle dit de Mafalda. Elle disait des choses qui n'étaient pas possibles de dire à une époque où la parole était muselée. Voilà, tout est résumé dans cette phrase avec Kino, donc son dessinateur, qui pendant 10 années, de 1962 à 1973, a donc donné vie à Mafalda. Ensuite, eh bien, il s'est arrêté de dessiner cette petite fille. Il est passé à autre chose. Il n'avait plus l'inspiration pour ce personnage-là, en tout cas. Le besoin de continuer sur d'autres ouvertures. Mais c'est là que c'est assez incroyable. Les dernières publications, albums de Mafalda remontent aux années, donc on l'a dit, 70, 73. Cela n'a pas empêché les albums de continuer à se vendre de par le monde à des millions d'exemplaires, comme on le voit avec Tintin ou Astérix, qui ne se démodent pas, même si les BD ont été écrites des décennies auparavant. Les albums continuent à se vendre.
Ces dernières années, Kino, le dessinateur, a été célébré dans de nombreux événements.
Eh bien, déjà, l'œuvre de Kino, elle ne se résume pas à ce seul personnage de Mafalda. Nous le disions, après les années 70, il a eu d'autres illustrations, d'autres personnages, d'autres envies. Et d'autre part, si le dessinateur argentin a arrêté il y a 50 ans de publier des albums sur la vie de Mafalda, il continuait de faire vivre ce personnage de temps à autre, indirectement, en ressortant ses crayons pour tel ou tel événement. En 2009, par exemple, il avait fait parvenir Kino un dessin de Mafalda au journal italien La Repubblica. On y voyait une Mafalda féministe interpellant le premier ministre italien Silvio Berlusconi en disant « Je ne suis pas une femme à votre disposition ». Les histoires de Mafalda, et cela aussi contribuait bien entendu grandement à sa notoriété, et pour les plus jeunes, tout petits, peut-être même plus que les plaques de bande dessinée, elles ont été adaptées pour la télévision en dessin animé. Il y a eu plusieurs séries, et c'est ainsi que dans de nombreux pays, bien les enfants sont familiers avec ce personnage. Ces 20 dernières années, Mafalda a régulièrement été à la une des grands festivals de bande dessinée. Son auteur Kino lui a été primé, récompensé dans de nombreux pays pour son œuvre. En France, Il a été nommé officier des arts et des lettres. Il a reçu en 2014 Kino au Salon du Livre de Paris l'insigne d'officier de la Légion d'honneur. Et son personnage Mafalda a aussi symboliquement reçu la Légion d'honneur. De l'humour, la liberté de dénoncer donc les travers de ce monde via un personnage, Mafalda. Depuis quelques années, Kino ne dessinait presque plus, souffrant de problèmes de vue notamment. Il regrettait par ailleurs que son personnage, à l'heure des réseaux sociaux et du tout Internet, soit parfois détourné, utilisé à son insu pour défendre telle ou telle cause, où on retrouvait une Mafalda avec des propos qui lui étaient prêtés, qui n'étaient pas du tout ceux que Kino lui avait donné. Kino, en tout cas, s'est éteint, nous le disions, début octobre. Il avait 88 ans. Le monde de la BD lui rend hommage depuis 15 jours. Mafalda, elle, qui n'aime pas la soupe, mais Mafalda qui adore la meringue, Mafalda qui vénère les Beatles, ce sont des constantes qu'on retrouve dans les albums. Mafalda, elle a 56 ans, mais elle reste une petite fille. Elle n'a pas pris une ride. Et heureusement qu'elle est là. Le monde a bien besoin de ce genre de regard et de ce sens critique de Mafalda.
Et nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous mardi à partir de 13h. Et entre-temps, n'oubliez pas de télécharger gratuitement nos podcasts sur sbs.com.au/french. Et on se quitte en compagnie d'Indochine qui nous interprète nos célébrations. À très bientôt. Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.